Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, après ce Sécanto, nous faisons un démarrage un peu new look puisque nous sommes dans notre nouvelle formule. Maxime Maury, bonjour.
Bonjour, je vous parle depuis Albi
Et
et je
moi,
suis heureux de vous retrouver.
depuis l'Écosse du Lot, où je suis tout aussi heureux que Maxime de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, comme à l'accoutumée, Maxime, nous allons essayer de dire la vérité, notre vérité peut-être, mais que nous avons travaillé et réfléchi sur l'économie. Alors, vous savez que nous commençons toujours et traditionnellement par une citation. Alors, je vous propose celle-là. Elle date de 1804. Vous allez voir, elle est très actuelle. C'est sous la plume de Bonaventura dans L'Éveil. À condition de ne pas être affecté d'idées fixes, l'humanité est en soi une brave bête, humble simplette, et après être tombée dans un excès, elle a tôt fait de se jeter dans l'excès contraire. Je la crois même capable, si elle est déchirée aujourd'hui, si elle a déchiré, pardon, aujourd'hui un léger lien qui l'a gênée, de se laisser mettre demain les fers avec le même enthousiasme. Bon, ça date de plus de 2 siècles et demi, mais vous voyez, c'est quand même assez actuel. Alors, nous allons parler aujourd'hui, le seul sujet qui vaille finalement, qui nous préoccupe tous, enfin, un des seuls sujets, parce que si on regarde les problématiques de la France, elle en a d'autres, mais là, surtout une essentielle aujourd'hui, c'est les conséquences de la pandémie, les conséquences macro et microéconomiques de ce deuxième confinement, et puis surtout, Maxime, le moral des Français qui paraît être affecté. On était déjà le premier pays consommateur de psychotropes en Europe. Je crois que là, nous allons conserver facilement et haut la main cette malheureuse première place.
Oui, je pense que pour comprendre la situation dans laquelle nous sommes, il faut un peu parler chiffres. Sinon, on ne comprend rien. Et je vous propose donc, sans exagérer et en allant à l'essentiel, une rafale de chiffres sur la crise sanitaire et ensuite une rafale de chiffres sur la crise économique qui en découle, sachant que nous ne sommes pas du tout dans la même situation qu'au mois de mars sur le plan économique, heureusement.
Alors, avant de.
Sur le plan.
Pardon,
Oui,
Maxime,
je vous en
je vous
prie, je
réponds.
vous en prie.
Avant de rentrer dans le dur
Oui.
que vous venez d'annoncer avec ce programme, de cette rafale de chiffres, alors j'en ai quelques-uns aussi, mais ce sont les mêmes. Je voudrais vous poser une question. Nos voisins, nos amis américains, nos alliés américains, je ne sais pas si ce seront toujours nos alliés, sont en pleine votation, comme disent les Suisses. On ne sait pas encore qui va sortir du chapeau. Alors,
Joe Biden.
nous avons écrit que vraisemblablement,
Oui.
Monsieur Biden devrait l'emporter, c'est souhaitable. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pensez que ça aurait comme impact économique au niveau de l'Europe?
Alors, je suis très content que vous me posiez cette question. Je pense que l'élection de Joe Biden et de Kamala Harris à la présidence des États-Unis redonnera l'espoir de maîtriser le climat. Et il y a très peu d'observateurs qui le soulignent, puisque Trump a été le principal obstacle à la réalisation de l'accord de Paris de 2015 sur le climat. Et je cite Laurent Fabius, dont nous avons lu le livre et dont nous avons parlé la dernière fois. Donc ça, c'est déjà un immense espoir. Ça veut dire qu'ils vont réintégrer l'accord, qu'ils vont participer activement à la conférence qui est attendue en 2021. Et que même s'il reste très peu de temps, car nous sommes à la 25e heure quasiment, hein, je cite Laurent Fabius, il est déjà très tard, mais il n'est pas trop tard, l'espoir de sauver le climat et donc de sauver l'humanité renaît. Voilà. Sur le reste, je pense que cela ne changera pas grand-chose. Ça changera probablement pour les Américains parce que les démocrates sont beaucoup plus attentifs, vous le savez, à la pauvreté, aux inégalités et aux minorités. Mais la pente des États-Unis d'Amérique reste une pente déclinante et isolationniste. Donc, cette tendance ne changera pas, mais je pense que M. Biden et Mme Harris vont vraiment respecter beaucoup plus les institutions de coopération internationale, et ça, c'est quand même une formidable bonne nouvelle.
Oui, on reviendra dans le multilatéralisme. Bon, après, ne rêvons pas. Trump sera peut-être éliminé, mais pas le trumpisme, parce qu'il n'est pas arrivé là seul et par hasard. Donc vraisemblablement, nous aurons à en reparler. Et surtout aussi, l'Amérique a beaucoup changé. Joe Biden sera obligé d'en tenir compte de ces évolutions. Et on ne sait pas encore quelle sera la répartition au niveau du Sénat.
Est-ce le que Sénat Joe Biden... sera probablement républicain, ce qui limitera
l'action de Biden. Hein.
On est mais n'oublions pas, moi je suis rivé sur le climat, et je pense que vous aussi d'ailleurs, n'oublions pas que les États américains peuvent prendre beaucoup d'initiatives dans le domaine environnemental. Finalement, la loi fédérale est presque résiduelle aux États-Unis. C'est d'abord, d'ailleurs vous le voyez avec les élections, chaque État a sa loi électorale. Donc l'élection de Biden va quand même changer l'ambiance sur ce sujet. Alors ce matin, nous attendons le résultat de la Géorgie, de la Pennsylvanie, et probablement plus tard du Nevada, qui a annoncé hier soir, alors que c'est un tout petit État qui ne donnerait pas de résultats avant la semaine prochaine, mais dès qu'un de ces trois États bascule du côté de Biden, on est sûr de l'élection de Biden. Et il est possible d'ailleurs qu'il gagne les trois États.
Eh bien, croisons les doigts, je ne sais pas si l'efficacité politique sera au rendez-vous, mais enfin la morale serait un peu sauve, parce que voir ce bouffon aux commandes de la première nation du monde, du premier pays du monde, se comporter comme il s'est comporté, c'est-à-dire comme un voyou méprisant, qui a profondément divisé son pays, ça fait quand même quelque part un peu mal. Mais,
oui, Jacques, et d'ailleurs, vous et moi, nous, et vous peut-être plus que moi, réfléchissons sur la question du populisme. Or, ce qui se passe aux États-Unis ces jours-ci est absolument stupéfiant. D'ailleurs, personne n'a l'air de s'en indigner. Vous avez un démocrate qui dit « Nous devons compter les voix », ce qui est la base même de la démocratie. La démocratie, c'est compter les voix. Et vous avez un président sortant qui, au lieu de tenir son serment, il a juré de défendre et de protéger la Constitution, il dit « Arrêtez de compter ». Mais c'est stupéfiant. Ça veut dire, et je sais que vous êtes très sensible à cette analyse, ça veut dire que, parce que je ne pense pas que les États-Unis soient un cas isolé, ça veut dire que les démocraties sont peut-être à terme en danger par le populisme.
Oui, un danger qui se manifeste, bien, on le voit chez nous, on a quand même des poussées, des percées de populisme, des fièvres populistes. Je pense que vraisemblablement, les Gilets jaunes en étaient une, c'est une des manifestations, il y en a d'autres, il y en aura d'autres. On dit toujours, ça m'inquiète, ça, vu ce que l'on a vu, mais vous aussi certainement, on dit toujours que nous sommes en retard de quelques années sur les États-Unis. J'espère que nous aurons la sagesse de tirer les leçons de ce qui s'est passé chez eux et que nous ne réitérerons pas ce piètre exemple.
Oui, alors je vais un peu me défouler. Ce matin, les Gilets jaunes, c'était une manifestation populiste qui a été provoquée par le président de la République lorsqu'il a dit « qu'ils viennent me chercher ». Vous vous rappelez de cette intervention?
Oh oui. Alors, c'était presque du Trump.
Voilà, exactement. C'est pour ça que, et ce n'est pas pour attaquer Macron, c'est parce que je pense que le cancer du populisme ou le virus du populisme est présent partout. Ou presque partout. Et c'est bien le danger contre lequel il va falloir lutter dans les années qui viennent.
Bon, le programme est tracé, il est un peu lourd, mais revenons, si vous le voulez bien, Maxime, à la situation actuelle. Alors, vous avez promis une rafale de chiffres. Bon, on va essayer de ne pas trop assommer nos auditeurs, mais il faut quand même rester un peu technique, si je puis dire. Il faut regarder les faits, partir des faits pour essayer de tirer des enseignements.
Bon, alors vous avez cité, moi je citerai René Char, l'essentiel est en permanence menacé par l'insignifiant. Donc il faut aller à l'essentiel. Hier soir, le ministre Olivier Véran a fait une conférence de presse dans laquelle il a manifesté une certaine franchise en avouant que la France était le pays le plus touché d'Europe par la pandémie. C'est exactement ce qu'il a dit et il a rappelé que 1 600 000 Français sont porteurs du virus en instantané. Alors, ça veut dire que 1 600 000, l'Occitanie, ça fait à peu près 10%. Quand vous vous promenez dans les rues de l'Occitanie, vous avez 160 000 personnes qui sont porteuses du virus. Hier soir, moi, je suis tous les soirs depuis 2 mois et demi, les réanimations. Hier soir, on était à 4 280 réanimations et le chiffre a doublé en 15 jours. Le chiffre a doublé en 15 jours, ce qui veut dire que s'il doublait dans les 15 jours qui viennent, nous atteindrions atteindrions environ 8500. Et comme par hasard, cela correspond à la prévision que l'Institut Pasteur et le conseil scientifique du professeur Delfraissy avaient donnée à Emmanuel Macron pour le convaincre enfin d'agir. Alors, le ministre nous a dit hier soir qu'on n'atteindrait pas ce chiffre, Dieu l'entende, parce que les mesures du confinement devraient porter leurs fruits. Olivier Véran nous dit, si on respecte mal le confinement, on arrivera à 7000, et si on le respecte bien, on arrivera à 6000. Mais attention, il faut ajouter, alors prenons, donnons crédit à Olivier Véran du chiffre le meilleur possible, 6000. Il faut ajouter 3000 lits pour les autres maladies. Si vous avez besoin d'être opéré de la prostate, du cancer ou de maladies, vous ne pouvez pas déprogrammer à l'infini. Donc, on arrive à 9000. Et je voudrais souligner que 9000, c'est nettement au-dessus de la capacité prouvée au printemps dernier. Nous sommes allés jusqu'à 7000 et la capacité officielle était de 5500. Donc, vous voyez que nous sommes en dehors des clous. Le ministre, et je ne demande qu'à le croire parce que j'ai une certaine estime pour M. Véran, nous dit qu'il va faire monter en charge progressivement des lits. Il a des respirateurs, nous dit-il, pour armer 10 000 lits. Et il nous dit que maintenant, il fait appel à des réserves de personnel et même à des étudiants. Donc, vous voyez que nous arrivons dans une situation dramatique. Et en réalité, nous aurons la vérité de cette situation dans la deuxième quinzaine de novembre. Dans mon éditorial, j'ai parlé de désastres sanitaires liés à l'impréparation. Et nous prendrons la mesure de ce désastre dans les 3 semaines qui viennent. Et il faut espérer qu'il soit le plus petit possible. Alors, je vais dire que les mots qui reviennent souvent, et en particulier dans le discours du sénateur Retailleau devant le Sénat, et le sénateur Retailleau est plutôt un homme aimable, ce sont les mots d'imprévision, impréparation, improvisation, incohérence et incompréhension. Et l'incompréhension nous permettra, dans la deuxième partie, de parler du moral de nos concitoyens.
Alors, est-ce qu'on peut dire, Maxime, que finalement on a raté le déconfinement, qu'il fallait prendre des mesures réellement contraignantes au sortir du déconfinement pour l'accompagner, ce qui n'a pas été fait. Par exemple, quand on a regardé les circulaires dans les services publics qui disaient à cette époque que l'on peut finalement télétravailler 2-3 jours par semaine ou revenir au bureau, cette doxa de revenir travailler en présentiel est assez sidérante, ou en tout cas jugée comme telle par beaucoup de scientifiques.
Oui, c'est un point parmi d'autres et je vais m'attacher aux faits en laissant mon opinion en dehors. Vous avez raison de dire que sur le télétravail, le patronat et le gouvernement n'ont cessé de tergiverser. Alors maintenant, la tergiversation est terminée, tout le monde doit télétravailler, tous ceux qui le peuvent. Mais le plus grave n'est peut-être pas ce point-là. Le plus grave, c'est que pendant l'été, on a laissé la France se contaminer en masse sans intervenir, alors qu'on aurait pu demander à nos forces de police et de gendarmerie, et même sans mettre d'amende, de sensibiliser le public. Je disais dans une précédente émission, nous avons le souvenir de mariages dans des églises où les gens n'étaient pas masqués, où il n'y avait aucune mesure sanitaire. On a laissé faire. On a vu d'ailleurs le président de la République prendre un bain de foule en Seine-Saint-Denis sans protection. On a vu le ministre de l'Intérieur sur une photo avec 40 personnes sans protection.
C'est très trumpien là aussi.
Alors, effectivement, voilà, tout à fait, voilà un comportement populiste. On a vu des ministres s'embrasser sur les perrons ministériels au moment du changement de gouvernement. Et je peux comprendre tout ça parce qu'il y a un côté humain. Mais ce que je ne peux pas admettre, c'est que le conseil scientifique, 15 personnalités scientifiques qui analysent les chiffres à la loupe avec des statisticiens épidémiologues et le professeur Delfraissy, qui est un professeur de médecine qui a été reconnu par 3 présidents de la République successifs, a été créé par le président de la République et le 27 juillet, ils disent au président de la République qu'il y a une deuxième vague qui arrive et elle va être haute. président de la République n'a rien écouté. Et en septembre, Delfrécian a remis une couche, si je puis dire, et publiquement, c'est-à-dire que publiquement, il a dit « attention, ça va devenir dangereux, il faut prendre des mesures ». Or, nous nous souvenons d'une conférence de presse du Premier ministre le 15 septembre où la seule mesure annoncée a été la réduction de la quarantaine, c'est-à-dire de 2 semaines à 1 semaine.
Donc, oui, une conférence de presse qualifiée par certains de totalement inutile, puisqu'on n'a pas annoncé ce qui aurait dû être annoncé à ce moment-là, on n'a pas pris la mesure, sachant que les scientifiques Delfrécy et les autres avaient dit que le virus serait certainement beaucoup plus virulent en automne et en hiver, parce que c'est les moments qu'ils préfèrent, quand le temps se refroidit. En plus, quand le temps se refroidit, on vit plus à l'intérieur, donc on est plus les uns sur les autres, et donc on accélère la contamination.
Absolument. Et donc, moi, je me rappelle de cette conférence de presse, je croyais rêver, parce que je suivais les déclarations de Delfrécy. Delfrécy n'est pas un plaisantin. Bon. Et enfin, il y a eu la polémique sur les bars à Marseille. Et je terminerai en disant que quand Emmanuel Macron s'est finalement résolu à annoncer le couvre-feu le 14 octobre, savez-vous quel était à ce moment-là le nombre de lits en réanimation? 1700. Et 1700, c'est exactement le niveau auquel il a annoncé le confinement le 16 mars. Autrement dit, le 14 octobre, au lieu d'annoncer le couvre-feu, il aurait dû annoncer le confinement. Et en vous écoutant, je réalise finalement que c'est une forme de populisme. C'est une forme de populisme. C'est-à-dire que, au lieu d'écouter la science, au lieu d'écouter les experts scientifiques qu'il a lui-même nommés et qui sont absolument irréfutables, on a constamment flatté le peuple, l'opinion publique. Et de ce point de vue-là, le professeur Raoult a fait beaucoup de mal, puisqu'en fait, il a poussé à ce qu'on se désarme, si je puis dire, et il a poussé collectivement à l'imprudence. Donc, voilà la raison pour laquelle je suis assez en colère aujourd'hui.
Et aujourd'hui, évidemment, le confinement est incontournable, même si le confinement ne permet pas de lutter contre le virus, bien évidemment. Il permet de desserrer l'étau qui enserre notre système de santé. Mais on sait que si on ne fait pas le confinement aujourd'hui, eh bien on ne pourra pas déjà soigner la totalité des gens atteints, et puis on ne pourra pas prendre en charge d'autres pathologies, ce qui engendrera également un certain nombre de décès. Le premier confinement a bien montré que beaucoup de gens cancéreux ou d'autres maladies n'ont pas pu être suivis comme ils auraient dû l'être, et ça a eu des conséquences collatérales extrêmement importantes.
Alors, avant de parler des effets économiques, je crois qu'il faut appeler nos auditeurs au civisme, au patriotisme, c'est-à-dire le confinement est incontournable, il faut le respecter, on parlera quand même des commerçants tout à l'heure, et il faut que cette colère que nous sommes nombreux à éprouver se transforme en civisme. Et le civisme, c'est ouvrir les fenêtres, c'est manger dehors, c'est garder des distances de 2 mètres en famille quand on se… Vous savez que la contamination a lieu essentiellement dans l'espace privé aujourd'hui, donc famille, et elle a lieu également dans les cafétérias et dans les restaurants d'entreprise. Ce qui d'ailleurs nous renvoie à la question des commerçants, parce que ce n'est pas chez les commerçants de proximité qu'on se contamine. Donc, civisme. Si vous voulez, on peut parler un peu des conséquences économiques.
Oui, il faut en parler. Alors, on dit que certains prétendent, et vous me corrigerez, mais qu'un confinement va noyer l'économie. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que dans la situation où on est, où on déplore, on l'a dit, que ces mesures soient prises, parce qu'on aurait pu faire autrement si on s'était pris plus tôt, mieux, et en écoutant les scientifiques. Aujourd'hui, le confinement, évidemment, s'impose face à l'incurie des pouvoirs publics français, et si on ne confine pas, ce sera pire du point de vue économique également, pas que du point de vue économique, mais du point de vue économique, ce sera pire dans quelques temps. Donc le confinement au stade où on en est aujourd'hui est incontournable. Maintenant, quid de l'économie? Et là, je me tourne vers vous.
Bien sûr. Alors, il faut avant tout reprendre le contrôle de l'épidémie, et nous avons complètement perdu le contrôle. D'ailleurs, je suis désolé de dire que le 14 octobre, Emmanuel Macron a menti, et plusieurs scientifiques l'ont souligné, nous avons perdu le contrôle de l'épidémie. Pour retrouver le contrôle, le professeur Delfrécy nous dit qu'il faut redescendre à 5 000, 8 000 contaminations par jour pour que la stratégie tester, tracer, isoler puisse enfin fonctionner. Or, hier soir, vous avez vu, le chiffre est horrible. Nous sommes, Nous étions hier soir à 58 000 contaminations au jour. C'est un chiffre jamais atteint. C'est le record des records. Alors, je crois qu'il y a quand même une bonne nouvelle à dire, c'est que ce confinement, qui est plus souple, avec les écoles ouvertes, n'aura pas les mêmes effets économiques que le premier. Vous vous souvenez que le premier confinement a entraîné un effondrement du PIB de 33 points. Pourquoi ? Bien parce que on ne pouvait pas télétravailler avec les enfants à la maison, et parce que, en tout cas pas correctement, et aussi parce que 25% des salariés sont partis en congé maladie. Bon, c'est quelque chose qui a été assez peu souligné, mais moi je regardais les chiffres attentivement. Les gens étaient en congé maladie parce qu'ils avaient peur, et ils avaient peur parce qu'on n'avait pas les masques, on n'avait pas les protections. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même situation. Les gens qui doivent être présents dans les entreprises sont présents. Ils sont, je l'espère, très bien protégés, et puis l'inspection du travail pourra y veiller. Et les gens qui sont appelés à télétravailler, c'est-à-dire la majorité, peuvent télétravailler correctement avec les enfants à l'école. Alors, quel est l'impact ? Oui, je vous laisse la parole, mais juste pour conclure sur l'impact, hein, mais c'est juste l'impact. Monsieur Bruno Le Maire, qui n'est pas démenti, et je lui fais plutôt confiance, nous dit que la dépression économique qui devait être de 10%, c'est déjà beaucoup, serait de 11%. Donc, on prendrait un point de dépression en plus et on prendrait une baisse du PIB de 4% au quatrième trimestre, mais sur l'ensemble de l'année, ça n'ajouterait qu'un point de plus. Donc, nous voyons quand même que l'aspect économique reste plutôt maîtrisé.
Bien, non, je voulais reprendre la parole pour vous la redonner aussitôt. Puisque nous allons faire une pause musicale, parce qu'on dit des choses un peu lourdes là, donc il faut un peu s'aérer l'esprit, il faut un peu se réjouir l'esprit. Vous avez fait un choix qui est celui de Charles Trenet, Mes jeunes années. Alors pourquoi ce choix ?
Ben, c'est le souvenir des temps heureux, et les jeunes années, c'est toujours le souvenir des temps heureux. Et puis, c'est le souvenir de magnifiques randonnées que j'ai faites dans les Pyrénées lorsque je vivais à Toulouse. Voilà.
Alors, on écoute Charles Trenet.
Plein d'oiseaux et de fleurs, et les Pyrénées chantent au vent d'Espagne, chantent la mélodie qui berça mon cœur, chantent les souvenirs, chantent ma tendre enfance, chante tous les beaux jours à jamais finis. Et comme les bergers des montagnes de Florence chante le ciel léger de mon beau. Parfois loin des ruisseaux, loin des sources vagabondes, loin des fraîches chansons des eaux, loin des cascades qui grondent, je songe, et c'est là ma chanson, pauvre béni des premières saisons. Mes jeunes années courent dans la montagne, courent dans les sentiers, plein d'oiseaux, de fleurs. Et les Pyrénées chantent au vent d'Espagne, chantent la mélodie qui berça mon cœur. Chantent les souvenirs, chantent ma tendre enfance, chantent tous les beaux jours
livre à jamais me finir. Et comme les bergers des montagnes de France chante le ciel léger de mon beau
Voilà, c'était Charles Trenet, choisi par Maxime Maury, hein, qui, ses jeunes années qu'il rappelle, dont il se souvient avec nostalgie et qu'il rappellerait de ses voeux. Revenons, si vous le voulez bien, Maxime, à l'impact économique. Alors, on disait que ce confinement va coûter, je crois, c'est Bercy qui l'a dit, 15 milliards d'euros à l'État.
On sait que 15 milliards par mois.
Oui, il faut le préciser. L'espoir d'une reprise en Europe, on s'éloigne aussi. Donc, le PIB européen va plonger. Il retrouvera certainement son niveau après l'épidémie, mais vraisemblablement en fin 2022. Donc, comment tout ça va pouvoir s'organiser sur le plan français ?
Oui, alors d'abord, arrêtons les mensonges. Nous ne sommes pas confinés jusqu'au 1er décembre. Là encore, il y a un manque de sincérité. Nous sommes confinés au moins jusqu'à Noël. Je pense qu'on passera Noël sous le couvre-feu. Il y aura peut-être un peu de liberté à Noël et il est possible qu'on soit reconfiné après. Parce que, encore une fois, l'objectif défini par Jean-François Delfraissy, c'est pas lui le chef du gouvernement, mais on comprend la logique, c'est qu'on ne peut pas maîtriser l'épidémie avec la stratégie testée, tracée isolée, si on ne tombe pas à 5-8 000. Contamination. Et nous sommes actuellement à 58 000. Donc, vous voyez le chemin qu'il faut parcourir. Et Jean-François Delfraissy a dit très clairement que ça ne serait pas atteint au début décembre. Donc, arrêtons de mentir. Alors, en vous écoutant, je pensais que le seul pays qui aura de la croissance en 2020, vous savez quel est ce pays ?
Eh bien non, mais vous allez nous le dire.
La Chine. C'est-à-dire que la Chine, d'où est partie l'épidémie, est le seul pays à avoir vaincu l'épidémie et à être capable d'afficher une croissance qui devrait être de 2 ou 3% en 2020. Ce qui prouve bien d'ailleurs qu'on ne peut pas opposer l'économie et la santé. Hein. Par contre, on peut opposer les gouvernements qui ont bien gouverné et ceux qui ont moins bien gouverné.
Bon, alors, est-ce que ce n'est pas plus facile de combattre ? On sait que les peuples sont rétifs aujourd'hui à toute mesure contraignante. On sait que les Français, encore plus que les autres, parce que ce sont de grands raisonneurs. Est-ce que c'est plus facile en Chine avec un régime dictatorial, avec des policiers, des drones, des mesures très, très contraignante, et c'est un euphémisme, est-ce que c'est plus facile à gérer une épidémie ?
Bon, la Chine n'est pas un exemple pour moi, et la Chine est une dictature. Mais je vous dis ça parce que hier soir, j'ai été influencé par la lecture d'un éditorial de M. Delomé, que je cite quelquefois dans Le Point, qui faisait la corrélation entre économie et santé, et montrait que les pays qui ont les meilleurs résultats actuellement face à la pandémie, sont aussi les pays qui vont avoir la récession la moins forte. Et je pense en particulier à l'Allemagne. L'Allemagne, avec des dépenses de santé qui sont relativement au PIB inférieures aux nôtres, légèrement inférieures, affiche 100 000 personnels soignants de plus que nous et affiche, je crois que c'est deux fois plus de lits, peut-être même trois fois plus en réanimation que nous.
Donc, l'Allemagne, il y a quand même quelques tiraillements, parce que d'abord, le fonctionnement n'est pas du tout le même que le nôtre, parce que les provinces…
C'est un pays fédéral.
Voilà, c'est un pays fédéral, mais il semblerait là que Mme Merkel s'agace un peu parce que chaque fédération, si on peut dire, a ses particularités et certains dirigeants jouent plutôt leur carte personnelle plutôt que celle de la nation.
Bon, ben, moi, ma conviction, mais là, c'est une autre émission qu'il faudrait faire et elle serait presque interminable, c'est que les pays qui réussissent le mieux sont les pays décentralisés qui associent à la fois les collectivités et les citoyens, et que le gouvernement centralisé où les décisions tombent d'en haut et généralement avec très peu de concertation, ne peuvent pas fonctionner parce qu'ils sont totalement en contradiction avec les caractéristiques du monde moderne. Le monde moderne, c'est un monde où le niveau d'information est quand même assez élevé et où les gens ont besoin de donner leur avis. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Donc, sur l'économie, vous avez rappelé le chiffre 15 milliards par mois. Bon, le gouvernement a fait voter un supplément budgétaire de 20 milliards, ce qui fait d'ailleurs que je ne m'y retrouve pas, parce que 15 et 15, ça fait 30, et 30, c'est supérieur à 20. Mais enfin, peu importe. Nous voyons bien que le confinement va être accompagné par ce que j'appelle les trois moratoires. Premièrement, le moratoire des prêts garantis par l'État, 120 milliards d'euros, hein, c'est pas rien, puisque ce moratoire va passer de 6 mois à 2 ans. D'ailleurs, dans notre dernière émission, nous avons dit qu'il va passer de 6 mois à 1 an. Maintenant, on est à 2 ans. Le deuxième moratoire, c'est le moratoire des charges. Et d'ailleurs, ce n'est pas un moratoire, c'est une abolition des charges. Pendant toute la durée du confinement, ou du couvre-feu d'ailleurs, les charges ne seront pas payées, les entreprises seront exonérées. Et le troisième moratoire, c'est, vous savez que le chômage partiel devait progressivement se retirer, et le gouvernement a complètement abandonné ça, et il prolongera, maintenant il n'y a plus d'horizon, l'horizon est devenu indéterminé, le chômage partiel, auquel s'ajoute, et là je ne le comprends pas bien, le chiffre de 10 000 euros, qui est un chiffre d'indemnisation, mais je pense que c'est 10 000 euros au maximum. Vous savez qu'un commerçant gagne en moyenne 2 000 euros par mois. Un coiffeur gagne 1 400. Et il y a ce chiffre de 10 000 euros qui il est généralement mal expliqué. Il n'y a pas de rigueur.
On parle d'indemniser jusqu'à 10 000 euros les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement. Et celles faisant partie de secteurs qui sont particulièrement affectés, c'est-à-dire le tourisme, la culture et quelques autres, et qui auraient perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Ce sont les conditions posées.
Je pense que c'est ça, Jacques, mais ça ne nous dit pas pour autant. Un commerçant qui gagne 2 000 euros, encore une fois, c'est la moyenne, qu'est-ce qu'il recevra réellement sur ces 10 000 euros?
Pareil, parce que les commerçants tombent en dessous de la barre des 50 salariés. Oui, et pour cela, ainsi que pour les indépendants, l'indemnité sera de 1 500 euros par mois. Et le maire chiffre à 6 milliards d'euros pour les 4 semaines à venir le coût de cette opération. Ça fait à peu près 200 000 entreprises qui vont baisser le rideau durant le confinement pour des raisons administratives.
Alors, si vous avez raison, et compte tenu de ce que j'ai dit avant, ça veut dire que les commerçants ne vont pas perdre d'argent. Par contre, ils risquent de perdre de la clientèle et de la perdre définitivement. C'est ça l'enjeu, non?
L'enjeu, ce n'est pas perdre définitivement une clientèle, non, parce que les gens, quand ils vont pouvoir revenir dans leur commerce, vont ressortir, vont consommer, etc. Mais c'était dans le confinement en première version, c'était ce qui se passait. Tout le monde a touché 1 500 euros en dessous de 50 salariés.
Oui, mais alors si je vous écoute et si vous écoutez ce que j'ai dit avant, il n'y a pas de problème.
Non, mais il y a quand même un gros problème parce qu'au niveau des commerçants, déjà, on peut se demander s'il était normal de fermer ces commerces de gens qui ont été extrêmement prudents. On l'a vu en allant chez eux, qui limitaient le nombre d'entrées avec les masques, avec l'alcool à l'entrée où tout le monde se... Absolument. Et vous le rappelez, ils étaient très, très durs là-dessus. Vous êtes lavez-vous les mains, gel hydroalcoolique, le masque bien porté, etc. Ces gens ont été relativement exemplaires. Le seul remerciement qu'on a trouvé, c'est de leur demander de baisser le rideau tout en laissant les grandes surfaces continuer à travailler. C'est scandaleux.
Je salue les commerçants de Nantes dans l'Aveyron parce que pendant tout le confinement du mois, j'ai été admiratif de la rigueur avec laquelle ils ont organisé leur magasin. Non, mais simplement, est-ce qu'il y a vraiment. Pourquoi y a-t-il une révolte? Je pense que vous évoquiez tout à l'heure en privé la manifestation qui a lieu à Toulouse.
Cet après-midi, je crois, on va réunir 1 000 personnes sur la place du Capitole. On comprend pourquoi, on les soutient, on est avec eux, bien évidemment, mais est-ce qu'ils ne vont pas se mettre en risque? Est-ce qu'on ne va pas créer un cluster?
Alors, j'essaye avec vous de comprendre. Hein, c'est, si les indemnisations sont ce que nous avons dit, pourquoi sont-ils à ce point angoissés? Et moi, mon sentiment, c'est qu'ils le sont parce qu'ils pensent qu'ils risquent de perdre leur clientèle. Sous la concurrence des GAFA, Amazon, alors le Premier ministre a eu raison d'enlever dans les grandes surfaces, ce qui n'est pas essentiel parce qu'effectivement, ça pourrait leur faire perdre définitivement leur clientèle. Il y a aussi les coiffeurs. Par exemple, les coiffeurs, le Premier ministre a décidé d'empêcher les coiffeurs à domicile. Alors, il a peut-être oublié que les coiffeurs à domicile, ce sont souvent les coiffeurs en boutique qui se déplacent. Oui. Mais enfin, peu importe. Parce qu'il y a cette idée que peut-être les commerçants pourraient perdre leur clientèle.
Il y a autre chose, Maxime, parce que si je suis commerçant, OK, j'ai mes salariés qui sont en chômage technique, je vais toucher 1 500 euros. Certains gagnent peut-être plus, c'est une décote, mais ils ont 1 500 euros. Mais tous les autres frais continuent à courir, les emprunts continuent à courir.
Alors, oui, les
et
loyers.
Surtout, alors, et surtout les loyers, le bail commercial. Qu'est-ce qu'il en est du bail commercial? Alors, il y a quand même une disposition. Je regarde mes notes. On a dit que les bailleurs qui renonceront au moins à un mois de loyer recevront en échange 30% de la somme en crédit d'impôt. Bon, ça me semble déjà un peu complexe à mettre en place, mais pourquoi pas? Mais il n'y a pas que des bailleurs, il y a des gens qui sont propriétaires, mais en réalité, ils sont propriétaires parce qu'ils ont un prêt auprès de la banque, ils doivent assumer le service de ce prêt. Comment vont-ils faire? Les banquiers n'ont pas été très souples durant le premier confinement. Il y a des gens qui ont dû faire des emprunts auprès de la même banque pour payer cette banque, et notamment ces agios. Comment on fait?
Alors, moi, je suis à Albi. La maire d'Albi a écrit au président de la République. Elle n'a pas pris d'arrêté contre la préfète, mais elle a écrit au président de la République. Et elle porte une idée qui me semble, j'espère que je ne vais pas être traité d'irresponsable par M. Véran, mais l'idée de commander un produit sur un site, de prendre rendez-vous et d'ouvrir la porte à une personne et pas à deux sur rendez-vous, c'est le principe du drive ou du click and pick, c'est-à-dire je clique, je fais une commande et je vais chercher ma marchandise. Cette idée, à mon avis, doit être étudiée.
À part que nous sommes en confinement, donc comment voulez-vous que les gens sortent, puisqu'ils ne peuvent sortir que pour aller chez leur médecin, faire un petit tour autour de 1 km, alors je ne sais pas si c'est 1 km à vol d'oiseau ou pas, dans leur quartier, comment vont-ils se rendre à leur commerce qui, pour la plupart, sont qualifiés de non essentiels?
Eh bien, justement, c'est modifier cette rubrique-là et permettre notamment des achats de livres sur rendez-vous. Vous voyez, bon, enfin, écoutez, je ne vais pas sortir de mon domaine de compétences, mais je pense qu'il faut que le gouvernement étudie ça. Parce qu'encore une fois, les contaminations n'ont pas lieu dans la rue. Dans la rue, tout le monde porte le masque. Elles n'ont pas lieu dans le petit commerce, elles n'avaient pas lieu dans le petit commerce. Elles ont lieu fondamentalement dans l'espace privé et on ne veut pas s'adresser aux gens. Alors, on retrouve le populisme dont nous parlions tout à l'heure. On ne veut pas s'adresser aux gens parce qu'on a peur de les vexer, etc. Monsieur Macron veut être réélu. Et elles ont lieu essentiellement dans les cantines d'entreprise et dans les cafétérias. Donc, c'est la raison pour laquelle il me semble que le gouvernement devra, je ne dis pas faire une concession, ce n'est pas le mot qui est le juste, c'est faire un effort d'adaptation.
Mais enfin, Maxime, je vous propose de faire une deuxième pause musicale. On va laisser souffler un peu nos auditeurs. Alors, cette deuxième, c'est moi qui l'ai choisie. Vous la connaissez bien, tout le monde la connaît bien, mais c'est pas mal de la rappeler un peu. Ça s'appelle « Maintenant, je sais » et c'est Jean Gabin.
Ah oui, je vois, oui, je la connais, oui.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens, oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça je le sais.
Voilà, Maxime, Jean Gabin, maintenant je sais. Alors ça, c'est, ça, ça fait passer quand même un peu pour ce que nous sommes, c'est-à-dire déjà des gens d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain. Toutefois, oui, c'est une sagesse, c'est une sagesse que peut-être les plus jeunes d'entre nous doivent commencer un peu à réfléchir.
Oui, mais je suis sensible à ça, parce qu'en fait, ce que nous dit Jean Gabin dans cette chanson, c'est que, enfin, si on traduit en termes contemporains, il faudrait confier la gouvernance à des hommes ou des femmes sages.
Voilà, sans commentaire.
Comment ? Mais il n'y a pas de sagesse sans expérience, c'est ça le problème.
Oui, mais je ne commenterai pas, mais en fait, tout le monde vous a compris, j'imagine. Alors, comment ça va se passer maintenant ? Parce qu'il y avait quand même deux chantiers qu'il faudrait mener. C'est le plan de sauvegarde des secteurs et des personnes en train de se faire fracasser par la crise. Et puis, de l'autre côté, quand même, il fallait un peu moderniser le pays, le remettre un peu au standard international économiquement parlant. Il fallait opérer un certain nombre de mutations. Ça, j'imagine que l'on n'en parle plus. L'investissement reste nettement en retrait aujourd'hui. Certains secteurs, notamment tout ce qui est les secteurs services, qui représentent 9% de la valeur ajoutée française, sont extrêmement mal. Sur le front de l'UNEDIC, de l'emploi, on va avoir un chômage à 10,5 à peu près hein, pour 2020. 420 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, la destruction de 670 000 emplois salariés, 23% des ménages qui ont déclaré que leur situation financière s'était détériorée pendant le confinement. Comment on va pouvoir organiser à la fois la lutte contre la pandémie, la survie de nos concitoyens, parce que c'est maintenant qu'il faut manifester de la solidarité, et puis aussi la nécessaire mutation de notre pays, parce que le monde bouge beaucoup et très vite, et il faudrait que notre pays puisse suivre ce rythme.
Alors, pour répondre sobrement et clairement, bon, d'abord, toutes les grandes réformes qui avaient été annoncées au début du quinquennat ont été abandonnées, et elles ont été abandonnées avant même la crise du Covid. Hein. Je ne vais pas faire l'inventaire, mais je pourrais le faire. Aujourd'hui, ce qui nous guide, c'est le plan de relance et le plan de soutien. Alors, 460 milliards pour le soutien et 100 milliards pour la relance. Et l'inquiétude que manifestaient certains économistes, je pourrais en citer plusieurs, dans les derniers jours, à la fois à l'échelle française et européenne, c'est que les plans ne se déploient pas assez vite. D'ailleurs, c'est aussi le souci qu'exprime Madame Lagarde, présidente de la BCE. À l'échelle européenne, c'est 1000 plus 750 milliards, 1750 milliards, et à l'échelle française, ce sont les 100 milliards. Et alors, j'ai envie de citer au passage M. Rousset, l'ancien président des régions, président de la Nouvelle-Aquitaine. Vous savez que le président Macron a choisi de confier ce déploiement à des sous-préfets. Bon, une trentaine de sous-préfets. Simplement, le président des régions de France dit « Décidément, l'État ne change pas. Sa vision de la capacité des acteurs régionaux à prendre leur destin en main est la plus jacobine depuis des décennies. » Alors, ce n'est pas pour critiquer que je dis ça. C'est que si nous voulons que ça se déploie à la mesure de la nécessité que nous impose la dépression, il faut que ça aille vite, plus vite même. Et est-ce que ça peut aller plus vite sans les régions, sans les départements, sans les collectivités territoriales? Moi, j'ai tendance à répondre que non. Mais en tout cas, vous avez cette inquiétude qui se manifeste sous la plume, par exemple, de Nicolas Bavrès, de Patrick Artus, et elle se manifeste à la fois, je le répète, à l'échelle française et européenne. On a bien formaté les dimensions, je crois que j'ai dit dans une émission précédente, c'est 25 points de PIB pour 11 points de dépression. Donc, le format est tout à fait bon, mais si ça ne se déploie pas assez vite, nous risquons de couler. Et c'est ce que dit en termes plus choisis que moi Madame Lagarde dans une interview récente. Elle appelle ça le soutien des politiques budgétaires.
Alors, nous risquons de couler, vous le dites. Moi, je disais tout à l'heure, 23% des ménages ont déclaré que leur situation financière s'était détériorée. Je pense que tout le monde a cette inquiétude de savoir que l'on peut, comme vous le dites, couler ou tout au moins descendre pas mal de degrés de l'échelle, ce qui engendre chez nos concitoyens une perturbation psychologique importante. On le disait en liminaire, notre consommation de psychotropes est une des plus importantes, sinon la plus importante d'Europe. J'imagine que ça ne va pas s'arranger. Il y a peut-être un deuxième facteur qui vient se rajouter, c'est qu'aujourd'hui, on ne travaille plus en présentiel. On travaille chez soi, donc il y a une déshumanisation des relations sociales aujourd'hui, les gens s'en plaignent, on est dans la société numérique qui, à l'époque on a dit quand le travail des artisans était substitué par le travail à la chaîne, on a dit c'est une formidable déshumanisation. Est-ce que l'on n'est pas là aussi dans une formidable déshumanisation que de ne travailler qu'à travers un écran? D'ailleurs, nous en sommes et l'un et l'autre, mais beaucoup de nos concitoyens, les vivants exemples même, nous n'avons plus de présentiel, nous sommes dans l'angoisse, on voit le pays extrêmement bousculé. Qu'est-ce qui va se passer au final? Sur le plan psychologique?
Bon, le sujet est infini, on pourrait en débattre des heures. Je voudrais vous faire un petit flash sur l'état de l'opinion française, vérifiable dans les enquêtes d'opinion, et un deuxième sur ce que disent les psychiatres aujourd'hui. Bon, j'ai suivi plusieurs émissions de radio d'ailleurs sur ce sujet. Alors, sur le premier point, l'état de l'opinion française, d'abord, les gens adhèrent beaucoup moins au confinement actuel qu'ils n'y adhéraient au premier confinement. Le premier confinement en mars, l'adhésion était de 96%. Aujourd'hui, elle est de 66%.
Et pourtant, le risque est plus important en automne et en hiver. Absolument. Et parce qu'aussi la pandémie s'est développée.
Absolument. Le risque est plus important aujourd'hui. J'ai parlé de risque de désastre sanitaire. Et moi, je ne dis plus aux gens, prenez soin de vous. Je leur dis, prenez garde à vous. Prenez garde à vous. Bon. Deuxièmement, on voit que les gens ne font plus du tout confiance au gouvernement. C'est-à-dire que les enquêtes d'opinion disent que 70% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour résoudre la crise sanitaire. Et donc, du coup, ces données d'enquête sont forcément très perturbantes pour la psychologie, y compris d'ailleurs pour la nôtre. Hein, bon. Alors, les psychiatres, que disent-ils? Les psychiatres disent qu'il y a une émergence, là, très importante, des maladies psychiatriques, et en particulier des dépressions. Il y a des vagues de dépression. Et ils donnent deux causes. La première, la solitude. Alors, je ne développe pas, vous l'avez fait à l'instant, d'ailleurs, en parlant de la distanciation et du développement d'une société beaucoup plus froide et distanciée. Mais le deuxième facteur, moi, me paraît à la fois passionnant et démoralisant. C'est-à-dire que les gens disent qu'il y a une perte de sens. C'est-à-dire que les gens souffrent d'une perte de sens. Ils ne comprennent plus ce qui se passe. Et les psychiatres que j'écoutais sur France Culture disaient, bah oui, il y a eu un confinement, ça a été une épreuve collective, là on a très bien compris. Puis après on leur a dit, ah ben maintenant tout va bien, le virus a disparu, il n'y a plus de danger. Et en fait on les a laissés se contaminer en masse, et puis après le couvre-feu et le reconfinement. Donc les gens, nous nous comprenons parce que nous avons suivi heure par heure, et examiné toutes les prises de position, bon, mais la majorité de nos concitoyens ne comprennent pas. Je vais citer d'ailleurs M. Lucchini, Fabrice Lucchini, et le professeur Delfrécy, qui a parlé récemment de Barnum médiatique et qui a dit finalement les médias au début ont relayé des messages utiles, et puis après, à partir du mois d'avril, ça a été la confusion généralisée avec des émissions où vous aviez 5 médecins qui donnaient 5 avis différents et où personne n'osait faire une conclusion. Alors Lucchini, dont nous connaissons la délicatesse et le charme, a dit « Ce qui m'a le plus impressionné dans cette période, c'est qu'en regardant la télévision jour et nuit, je n'arrivais à rien comprendre. » En réalité, il est très délicat, je pense qu'il comprenait très bien que c'était un vrai bordel, si vous me permettez l'expression.
Peut-être faudrait-il aussi éviter de regarder, notamment ces chaînes en continu qui occupent l'espace avec des gens. Il y a toujours des experts, des spécialistes, dont on ne sait pas d'où ils sortent. Ils sont spécialistes du spécialisme, certainement, et on nous les resserre sempiternellement. On a des débats qui n'amènent à rien, qui ne permettent pas de comprendre. On a un gouvernement qui a quand même une attitude en dents de scie. On voit bien les incohérences, on voit bien qu'entre les ministres, ça ne fonctionne pas bien. On voit bien que M. Castex a du mal à s'imposer à son équipe, et notamment à M. le maire, qui a quelques tendances à prendre des libertés. Donc, je crois qu'il faut peut-être arrêter de regarder ce type d'informations. Peut-être revenir à nos journaux classiques, on a quand même de grands titres en France, et éviter ces chaînes qui occupent l'espace, mais qui sont des bulles intellectuelles, des bulles vides intellectuelles.
Oui, alors, je ne sais pas si je suis un exemple, mais moi, je ne m'informe que par deux sources. La première, c'est la lecture exhaustive de la presse française, la presse nationale. Hein. Je lis absolument tout, quasiment tout. Et ensuite, je vais chercher sur le net des conférences ou des interviews d'experts que je connais et dont j'ai vérifié pendant un ou deux ans qu'on pouvait leur faire confiance.
Alors, mais ça, Maxime, c'est du luxe. C'est le luxe du retraité, parce qu'il faut avoir du temps.
Sans doute. Oui.
Et puis après, je vais vous faire un compliment. C'est aussi le luxe de celui qui a un cerveau bien fait et bien plein. Ce n'est pas le cas de tout le monde.
Bon, j'admets que je suis retraité, j'admets que je suis docteur d'université, mais je trouve que sur mon téléphone, je peux avoir une quantité d'interviews, d'expertises et de conférences de gens que je connais parce que j'ai aussi 66 ans et que j'ai appris à les connaître, et que, effectivement, je construis ma propre opinion par une information que je vais chercher à la source. Quant aux chaînes d'information continue, c'est ma femme qui me dit ce qui s'y passe, mais moi je ne regarde absolument pas. Ça me rend malade d'ailleurs.
Mais donc vous êtes un peu comme Colombo, c'est votre côté, Colombo, c'est votre femme. Maxime, nous arrivons quasiment au bout de cette émission. Nous allons donc terminer par nos rubriques habituelles. Alors, il y en a une peut-être que l'on ne va pas développer, c'est l'économie en Occitanie, parce qu'aujourd'hui…
Il n'y a pas de nouvelle enquête à la Banque de France. Enfin, elle va sortir dans les jours qui viennent.
Mais... Voilà, oui, on n'a pas de chiffres. Et puis surtout, l'Occitanie avait été quand même pas mal épargnée durant la fameuse première vague. Aujourd'hui, on est, comme à l'instar du pays, touché de la même façon, de façon aussi large. On disait que vous me citiez tout à l'heure un chiffre de combien, 160 000 contaminés potentiellement sur l'Occitanie. Fait que...
Oui, c'est-à-dire que quand le ministre dit qu'il y a 1 600 000 personnes en instantané qui sont porteuses de la maladie et de manière contaminante, moi, je prends 10% du national, et j'ai à peu près l'Occitanie, c'est même un peu plus que 10% du national, c'est 13% du national, l'Occitanie. Hein. Et donc, j'arrive à la conclusion que si on se promène dans les rues des villes d'Occitanie, ou des campagnes d'ailleurs, on croise en gros pas loin de 180 000 personnes contaminées, quoi. Donc,
comme vous le disiez sagement tout à l'heure, prenez garde, prenez garde.
Prenez garde, voilà. Il faut arrêter de dire « prenez soin de vous », c'est « prenez garde à vous ».
Alors, dernière rubrique, c'est notre conseil culturel, qui est souvent d'ailleurs un conseil de lecture. Alors, vous allez démarrer, je crois, par un livre d'Aurélien Barraud, qui est chez Michel Lafond dans la collection Documents. Rappelons juste qu'Aurélien Barraud est astrophysicien au CNRS, professeur à l'Université Grenoble-Alpes, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et lauréat de plusieurs prix scientifiques et, très curieusement, parce que ce n'était pas sa même branche, docteur en philosophie. Alors après, il a écrit beaucoup d'articles très savants et il a écrit un livre que vous avez retenu pour nous en parler brièvement aujourd'hui.
Oui, vous me faites beaucoup d'honneur, mon cher Jacques, ce serait plutôt à vous de le présenter, puisque c'est vous qui me l'avez offert.
Oui, mais nous partageons beaucoup les lectures.
Bon, donc vous l'avez lu. Moi, j'ai commencé à le lire à Nantes, dans l'Aveyron, et puis maintenant, je me suis confiné strictement à Albi, et donc j'ai abandonné ma maison dans l'Aveyron provisoirement, et le livre s'y trouve. En réalité, j'ai lu la première moitié et la conclusion. Ce qui m'a alors, ce livre complète parfaitement la lecture du livre de Laurent Fabius, Rouge Carbone. Barraud décrit d'une manière saisissante l'effondrement de l'écodiversité et l'effondrement écologique dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec énormément de faits, de chiffres, etc. Alors, je n'ai pas lu la partie centrale, je suis allé ensuite à la conclusion. Ce qui m'a frappé dans la conclusion, c'est que, vous savez, on parle souvent entre nous, et je crois qu'il faudra qu'on fasse une émission, sur le problème cognitif. C'est-à-dire que les gens, avec le vocabulaire que nous employons, les concepts que nous employons, les routines dans lesquelles nous sommes, n'arrivent pas vraiment à comprendre. Barraud considère qu'on ne peut pas comprendre si on ne prend pas une démarche véritablement révolutionnaire, y compris dans le langage. Par exemple, transition énergétique. Est-ce que le mot transition énergétique transition énergétique, ça fait gentiment techno, ça fait... Bon, lui parle plutôt de révolution. De révolution parce que si nous restons dans les cadres mentaux habituels, non seulement nous ne comprenons pas, mais nous n'agissons pas.
Oui, c'est donc un sujet que nous, sur lequel nous reviendrons, parce qu'il est fondamental, on échange souvent tous les deux là-dessus. On le fera dans le cadre d'une émission Résilience, parce que c'est certainement le point dur de la transition écologique.
Oui, et vous voyez, quand on pense au professeur Meadows, « business as usual », la difficulté de changer « business as usual », eh bien, la crise sanitaire nous en a donné une extraordinaire illustration, c'est-à-dire que les gens n'ont pas voulu changer leurs habitudes. On leur a expliqué qu'il fallait avoir une distance. Ben, cet été, dès qu'il n'y avait plus le masque, ils se jetaient les uns sur les autres, et même ils s'embrassaient, quoi. Donc, c'est cette difficulté à faire en sorte que ce soit le cerveau qui commande, et pas les instincts, et pas les habitudes. C'est extrêmement difficile.
Alors, je rappelle le titre, Aurélien, il vaut vraiment la peine d'être lu parce que c'est écrit par un scientifique, mais c'est d'une clarté évidente. C'est un homme qui sait transmettre. C'est un livre. Oui, très didactique. Donc, c'est un livre. Pardon, je vous ai coupé, pardon.
Non, comme vous l'avez dit, mon cher Jacques, un scientifique et philosophe.
Oui, et cet aspect philosophique dont nous allons avoir extrêmement besoin dans les prochaines années, mais il va falloir également le mélanger à la science. Aurélien Barraud le porte et le fait très bien. Donc, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, Aurélien Barraud, chez Michel Lafond. Et pour ma part, je vais vous parler d'un livre, on reste dans le même sujet, ça s'appelle « Changeons de voix, les leçons du coronavirus », c'est chez De Noël, et c'est écrit par quelqu'un que tout le monde connaît, c'est Edgar Morin, en collaboration avec Sabah Abouessalam. Edgar Morin, vous savez qui c'est, philosophe, monsieur déjà très âgé, puisqu'il est né en 1921.
Grand philosophe.
Voilà, il a 38 ans.
Vous m'obligez à citer Edgar Morin, comme des aveugles, nous avançons vers l'abîme.
Absolument, 38 docteurs honoris causa. Bon, c'est un garçon qui a écrit, qui a réfléchi, qui a travaillé, qui a regardé le monde et qui a su le décoder. Il est l'auteur de plus de 60 ouvrages. Et dans ce livre, qui est un petit livre, hein, que vous trouverez facilement chez votre libraire, que vous commanderez plutôt chez votre libraire, eh bien, il nous parle de ce minuscule virus qui, dans une très lointaine ville de Chine, a déclenché le bouleversement du monde. On est en plein dedans. Et il se pose la question suivante: l'électrochoc sera-t-il suffisant pour faire enfin prendre conscience à tous les humains d'une communauté de destin, pour ralentir notre course effrénée au développement technique et économique? Nous voici rentrés, nous dit Edgar Morin, dans l'ère des grandes incertitudes. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je vous rappelle, c'est passionnant. Edgar Morin, Changeons de voile, les leçons du coronavirus. Voilà, vous avez deux excellents livres pour meubler vos journées si vous n'êtes pas en télétravail et si vous n'êtes pas, si vous êtes confiné chez vous. Nous arrivons, Maxime, au bout de cette émission Economica. Nous remercions, et vous et moi, Maëva Mercadal et Yanis Boudin, qui vont retravailler un peu notre texte pour le mettre en ligne. Vous pourrez donc retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Nous devrions, nous retrouver d'ici une quinzaine de jours pour une nouvelle émission d'Economica, mais je vous donne un rendez-vous prochain, la semaine prochaine, sur l'émission Résilience, sur laquelle nous vous parlons de l'État et de l'avenir possible, probable, souhaitable de notre Terre. Et ce sera un numéro Résilience qui sera thématique et spécial. Nous parlerons du pétrole et nous aurons avec nous un des grands spécialistes du pétrole, qui est Mathieu Ozano, qui a écrit un très gros livre, mais qui est absolument passionnant et que personnellement j'ai lu à une vitesse fulgurante parce qu'il m'a appris… 700, hein, il nous a fait 700 pages, mais c'est passionnant parce que finalement, moi qui suis un spécialiste des relations internationales, si on me les avait expliquées avec ce décodeur qui est le pétrole, l'énergie et l'énergie produite par le pétrole, j'aurais certainement mieux compris beaucoup de choses. Donc ce sera la semaine prochaine, on vous l'annoncera. Résilience spéciale pétrole, Maxime Maury, Mathieu Ozano et Jacques Lavergne. Nous vous disons, selon la formule portée par Maxime, voilà, prenez garde, belle journée à toutes et à tous, et à très bientôt.
Merci Jacques.
Merci Maxime.